Vous écoutez France Culture. Je suis le diable et je suis venu ici pour faire le travail du diable. Charles Tex Watson, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, 20e saison, c'est donc parti et j'ai plaisir à vous retrouver et à vous présenter quelques-uns de vos professeurs pour cette année. Monsieur Charles Manson, avec qui vous apprendrez outre les rudiments de la musique, les joies de la vie au grand air. L'abbé Joseph-Antoine Boulan vous enseignera le latin et l'art d'expier avec joie les fautes du prochain. Monsieur Frank Hennenlotter sera là toute cette année pour vous initier aux joies du modelage et aux délices de la fraternité. Comme vous voyez, vous êtes en d'excellentes mains pour passer en notre compagnie une nouvelle et délectable mauvaise saison. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 20e saison de Mauvais Genre. Vraiment très très heureux de vous retrouver après ces 2 mois de vacances. Comme vous l'aurez noté, nous retrouvons notre formule d'origine. Mauvais Genre fera désormais 60 minutes, mais comme on dit souvent, plus la poudre est tassée dans le canon, plus la détonation est violente. Donc 60 minutes peut être plus dense et encore plus foudroyante que d'habitude. En tout cas, on l'espère, on nous et on vous le souhaite. Vous retrouverez bien sûr les alpha et oméga de cette émission, l'encyclopédie pratique des mauvais genres de Céline Duchesnay et la chronique de Christophe Beer. Et par ailleurs, aucune des voix chères de mauvais genres ne se taira. Vous pourrez les entendre tout au long de cette année. Bienvenue donc dans cette 20e saison pour cette première émission donc de septembre 2016. Pardon. Sur les 200 ans de mauvais genres, c'est pas encore pour tout de suite. Et j'ai plaisir d'accueillir notre invité de ce soir qui ouvre bien évidemment la saison. Simon Liberati, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes l'invité de mauvais genre, bien sûr, pour le livre paru au mois d'août et qui a fait grand bruit, et à juste raison, California Girl, un roman paru chez Grasset, livre qui traite de l'assassinat de Sharon Tate et de ses amis, et puis surtout de ce climat mental et de ces pratiques criminelles qui régnaient au sein de la famille Manson. On ne pouvait pas ne pas rater ce livre, de même que l'on n'a pas raté votre précédent ouvrage, 113 études de littérature romantique, paru chez Flammarion, qui est vraiment une extraordinaire encyclopédie subjective de la littérature, un véritable exercice de dandysme intellectuel tout à fait réussi, qu'on continue à recommander. Donc, je répète, 113 études de littérature romantique, c'est chez Flammarion, Simon Liberati. Mais ce soir, donc, c'est les California Girls de chez Grasset qui vont nous retenir. Je serai entouré de Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Comment va-t-il?
Mais admirablement bien.
Qu'a-t-il fait de son été?
Oh, des tas de choses plus recommandables et d'autres qu'on retrouvera tout au long de cette année.
Alors, dites-nous un peu.
Ah, ben, dites-nous
ce qu'on peut dire.
Il y a des dossiers qui vont apparaître.
Les dossiers vont apparaître.
Sur les effets spéciaux, sur Jean-Pierre Melville.
Parfait.
Nous en reparlerons.
Ben, il y a intérêt. On va en reparler. Bonsoir, Fausto Fazulo.
Bonsoir, François.
Alors, bon été, bien sûr.
Excellent été. J'ai eu la chance de voir le dernier Godzilla au Japon.
Alors, vous étiez au Japon, effectivement.
Voilà. Formidable film. C'est enfin le retour au Japon de la créature après 14 ans d'absence, puisque le dernier Godzilla, dans 12 ans d'absence, pardon, était sorti au Japon en 2004. Et donc là, les Japonais se réemparent enfin de leur créature.
Et vous parlez sous l'œil charbonneux de Christophe Beer, qui lui est un adorateur des acteurs qui font carrière dans la peau des autres. Alors c'est la peau de gorille.
Très déçu, Christophe.
Ou dans le latex de l'homme qui enfilait la peau de Godzilla. Alors là, c'est du numérique, maintenant, ce travail pauvre.
C'est du numérique, mais les personnes qui sont aux commandes ont quand même su garder une vision assez artisanale. Donc c'est un film qui a beaucoup de cœur, malgré tout.
Très bien, bon, on en reparlera quand il sortira en France. Question évidente, le numéro 300 de Mad Movies, puisque vous êtes le rédacteur en chef de cette revue, est en voie de finition, j'espère.
C'est ça, oui. Si. Alors, c'est un sujet un peu tabou en ce moment, mais... Voilà.
Pour quel mode d'hommage avez-vous opté pour ce troisième?
Alors en fait, ça va être une détonation en deux temps, si je puis dire. Il va y avoir un numéro 300, somme toute, normal, entre guillemets. Et à côté, il va surtout avoir un guide qui est le guide des 300 films à voir avant de mourir. voilà, qui sera disponible à la fin octobre, auquel participe d'ailleurs le professeur Beer à côté de moi. Et j'espère en tout cas que la liste de ces films va créer une petite polémique, puisqu'il y aura des absents notables et des présents un peu moins attendus.
Un peu plus curieux.
Peut-être un petit, teaser, un petit absent notable.
Un petit absent notable, je sais pas, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je pourrais citer?
Le chat noir.
Oui, les frissons de l'angoisse, par exemple, de Dario Argento n'y figure pas. Il y a d'autres Dario Argento qui y seront évidemment, mais voilà. George Lucas n'est pas du tout représenté dans cette liste, par exemple. Oui, d'autres réalisateurs sont un petit peu plus présents, mais j'espère en tout cas que ça va susciter des réactions vives.
Simon Liberati, vous avez une liste, vous, de films à voir? Pour avant ne pas être mourir, trop bête, oui, je veux parler de mourir, mais...
Avant de mourir, je ne sais pas. Non, c'est difficile, c'est une question à brûle pour point. Je ne suis pas très... Je suis pas très... Qu'est-ce que j'aurais envie de voir avant de mourir? Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai... Non, je vais être nul, j'ai rien qui me... Rien ne me vient à l'esprit, comme disait Anna Nicole Smith, quand on lui demandait quel était son hobby.
Bah écoutez, vous avez toute l'émission pour y réfléchir. En tout cas, vous êtes notre invité. On en est heureux pour California Girls, qui sort donc chez Grasset au fil de cette rentrée monstre où l'on aura évidemment remarqué Les Amours Monstres de Catherine Dunn chez Gallmeister, les livres sur Monique Fourniret, sur Tony Meillon, et puis les deux ouvrages donc sur Charles Manson, le roman d'Emma Klein chez Kay Voltaire, et puis c'est California Girls. Mais avant de joindre le ranch et de tracer et d'évoluer dans le sillage de la Manson Family, on va évidemment ouvrir pour la première fois en cette saison l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et là, chère Céline, qu'est-ce qui nous attend?
Pas de lettres ce soir. Pas de lettres ce soir, François. Mais une présence féminine et animale à travers un livre intitulé La fille poilue, mis en récit par Nancy Hudson et en aquarelle par Guy Auberson. Donc place à la fille poilue.
C'est d'abord un conte pour adultes, ce n'est pas un conte de fées pour enfants, avec des gens qui font des choses héroïques et des petits soucis et puis des aventures et une fin heureuse. C'est venu comme ça tout seul, une fois que je me suis rendu compte que je voulais parler de la belle-mère finalement, la marâtre. En fait, c'est vaguement autobiographique, cette histoire. Je crois que je me suis toujours sentie comme bad girl, quoi, comme une sorte de fille un peu trop sauvage, un peu trop mal dégrossie. Et ma belle-mère a fait de son mieux pour me dégrossir. Je n'aime pas du tout raconter mes salades de façon directe. Et donc, le conte est un prisme comique, disons, pour cette histoire-ci. Quand je donnais la bonne réponse, faisais la révérence voulue ou posais ma fourchette à gauche, elle tapait dans les mains de joie. Elle pensait être venue à bout de la bête sauvage en moi. En réalité, celle-ci n'avait fait que se planquer. Elle s'était terrée à l'intérieur de mon corps et, en colère, attendait son heure. Elle vivait underground, invisible derrière ma peau lisse. Mais quand la porte de ma chambre se refermait le soir... Quand je me retrouvais à genoux près de mon lit et m'efforçais de prier, je la sentais, la bête, la fille poilue. Elle caquetait, grognait et faisait d'horribles grimaces dans ma tête. Elle lâchait des paix, hurlait des gros mots, piétinait mes prières et encombrait mon sommeil.
Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir une fille poilue en soi ?
Je crois que d'abord, c'est vrai que nous sommes animaux. Une chose qu'on oublie, il y a des liquides qui nous quittent, des choses qui nous sortent du corps. On ne sait pas très bien, on est des zones poreuses précisément. On ne sait pas très bien où on s'arrête et où le monde commence. Et les adultes, les parents singulièrement, sont toujours là à nous expliquer ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, comment faire pour être poli, civilisé, bien élevé, bien se tenir, etc. Et moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être un peu mal poli, de ne pas bien savoir me tenir et donc le grand projet de ma belle-mère a été de me civiliser.
Pour moi, dire j'ai aussi une fille poilue en moi, c'était pas seulement l'aspect sauvage, c'était presque la porosité de l'être et de la création.
Comment est-ce que vous pourriez décrire cette fille poilue, peut-être pas
en vous, mais à travers vos dessins.
Oui, si on prend le livre juste physiquement et on regarde la couverture, il y a une aquarelle qui peut mettre mal à l'aise un peu. C'est, on dirait d'abord un tutu, une sorte de petite robe de ballerine comme ça, avec les froufrous tout autour. Mais ensuite, on regarde d'un peu plus près, on voit que le sein, un des seins de la danseuse transparaît. Elle n'a ni tête, ni bras, ni jambes, il y a juste la robe. Mais la robe est sexuée de façon extrêmement inquiétante. Et on voit un bout de sein, on voit la région de l'entrejambe, peut-être un peu le ventre et tout. Donc on commence à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc pour se donner une contenance, on retourne le livre, on regarde arrière. Et là, c'est encore plus violent, puisqu'il y a le même tutu, mais soudain, l'entrejambe est saignante et il y a une sorte de abîme, une fissure qui monte de l'entrejambe jusqu'au cou en sang. C'est des images incroyablement fortes tout de suite. C'est pour ça que j'adore le travail de Guy. Ça nous parle. Il n'est ni dans la joliesse, ni dans l'abstraction. Il est dans quelque chose de très intérieur, mais qui est reconnaissable par tout le monde.
La fille poilue, un conte pour adultes écrit par Nancy Hudson, où les princesses ne sont pas celles que l'on croit, et où les aquarelles et les dessins de Guy Auberçon insufflent des désirs aussi délicats que lascifs. Un livre publié aux éditions du Chemin de Fer, et pour en savoir plus sur l'univers de Guy Auberçon, représenté par la galerie C à Neuchâtel, rendez-vous dès la semaine prochaine à la galerie Sator à Paris pour une exposition collective intitulée Credo, dans le cadre de la 5e édition de Passage, pas sage, une expérience immersive.
Merci Céline pour cette immersion dans l'univers de la femme poilue. Je suis Simon Liberati, je ne vais pas vous demander si vous êtes sensible au charme des belles-mères, mais plutôt au fait que dans la famille Manson, il y avait des femmes poilues.
Oh bah, elles étaient nombreuses, oui. Il y en a une que j'ai un peu calomniée, d'ailleurs j'ai honte, parce que c'est Patricia Krenwinkel, qui s'appelle voilà. Cathy dans son nom de guerre. J'arrête pas de la décrire comme une espèce de femme préhistorique. Elle n'était pas si préhistorique que ça, mais c'est vrai qu'elle avait un problème d'hyperpilosité, notamment sur les jambes, qui faisait qu'elle attirait pas elle plaisait pas aux cowboys. Je sais pas pourquoi les cowboys.
Même les cowboys les plus que tard ne
faisaient pas voilà, la reluquée. Non, mais voilà, les cowboys n'aimaient pas. Donc elle était très très amoureuse de Charlie. Elle, c'était la plus pure peut-être de tout. D'ailleurs, elle a eu une vie exemplaire depuis qu'elle est en prison. Elle s'occupe, je suis quasiment une bonne sœur, hein. Elle s'occupe des jeunes délinquantes, etc. Elle a témoigné, c'est la seule qui n'avait pas écrit sur l'affaire, ni trop témoigné. Elle a fait un truc il n'y a pas longtemps, un livre, je crois, ou un film, ou un documentaire peut-être. Enfin, il faut aller sur le Manson blog sur Internet pour voir tout ça. Toute l'actualité de la famille Manson, dans toutes ces plus récentes, sont là. Mais bon, voilà, Patricia Krenwinkel, la plus poilue de la famille Manson.
On va en parler dans quelques minutes, mais avant cela, je recommande quand même d'en réécouter en podcast la série d'été de Céline Duchesnet, qui s'appelait Pas si bête.
Pas si bête.
Voilà, réalisé par Laurent Polleray qu'on retrouve donc cette année comme réalisateur de Mauvais Genre et qui a signé le fourbon générique que vous avez entendu en ouverture. Donc écoutez Pas si bête.
Ça, c'est et vous libératif. Découvrirez quelques animaux Mauvais Genre d'ailleurs, voilà. Dans le poisson clown, je pense.
Le poisson clown, il y a tout un tas de. Le brame du maquereau, le cri de la fourmi. Non, c'est toute une merveille. C'est... J'espère d'ailleurs que cette série sera appelée à une nouvelle fortune, une nouvelle postérité en librairie.
Merci François.
Et en CD, puisque
je
c'est.
Je vous tiendrai. Au courant de tout.
Un classique, et bien maintenant un autre classique des annales criminelles nous attend, celui de la famille Manson, California Girls. Simon Liberati, on monte dans la machine à remonter le temps, nous sommes aux États-Unis en 1969. Do
say oh my and a boo-hoo. And now I'm gonna be 22, a oh my and a boo-hoo.
Les Stooges, le premier album donc, du groupe d'Iggy Pop, qui fait partie de votre playlist, Simon Liberati. Vous avez écouté en boucle les 4 ou 5 morceaux cités?
Non, parce que je les ai mis à, je l'ai mis à la fin, ce qui est d'ailleurs un ajout, hein, c'était pas véritablement. Il y a un personnage en effet qui parce que ça correspond à peu près au niveau du temps avec la période des Stooges. Je crois qu'ils avaient commencé déjà. Ils avaient même enregistré déjà cet album à l'époque, au moment des meurtres, je veux dire.
Oui, c'est absolument contemporain. D'ailleurs, je crois que le single est dû paraître un peu avant.
C'est ça, voilà. Oui, il me semblait que j'étais pas complètement dans l'impossibilité.
Donc ça fait partie de la playlist. 1969, c'est pourtant une année, Simon Liberati, où aux États-Unis, on ne s'ennuie pas trop. Non. Il y a plutôt de la tâche, il y a plutôt des choses à faire, des choses à mettre en route.
Oui, 69, c'est une année qu'on qualifie toujours de fin de la période hippie. C'est la fin de l'année 69 d'ailleurs, surtout avec le concert d'Altamont, mais les Stones et la célèbre histoire des Hells Angels, puis l'histoire évidemment de Manson, et puis il y a la Lune avant, mais enfin ça c'est plutôt positif, enfin en tout cas par là. L'histoire.
Alors vous appartenez à une génération qui a découvert l'affaire Manson alors qu'elle était enfant, encore à sa rentrée scolaire, Simon Liberati.
Ouais.
Comment s'est mis un peu en route cette histoire? Vous avez une histoire personnelle avec, je dirais, cette affaire Manson en tant que, à distance, bien sûr. Et puis, comment s'est passée la mise en chantier du travail, le choix de l'angle d'attaque, d'ailleurs, de ce récit?
Bah, j'avais un matériel absolument. Bon, je commençais à m'y intéresser très jeune, avec plus ou moins de fixité dans ma passion. Mais enfin, ça a duré quand même depuis l'âge de 9 ans, hein, quand j'ai vu pour la première fois les filles dans Paris Match, hein, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Et après, bah, écoutez, j'avais toujours accumulé, comme on fait, à une époque où il n'y avait pas encore Internet, toutes sortes de documentations, le numéro de Life avec Charles Manson, que je n'ai pas d'ailleurs, mais qu'un ami a possédé, quelques matchs où il y avait des photos, évidemment le livre de Vincent Bugliosi, Alka Skelter, qui avait été traduit, édité chez Lafon, réédité ensuite chez J'ai lu, je crois, dans les années 90, c'est plus qu'à disparu, c'est dommage.
Il faudrait le faire revenir en librairie.
Tout à fait intéressant et très bien traduit. Et puis après, bah voilà. Et puis toutes mes retenues, tous mes barrages que je pouvais avoir en me disant, mais tu vas pas t'occuper de ça tout le temps. Parce qu'il y a des gens qui sont totalement obsédés par la famille Manson. J'ai rencontré une femme dans un dîner il y a pas longtemps qui m'a dit qu'elle avait quitté son mari dans les années 80, 70 parce qu'il ne parlait plus que de ça. Il ne disait plus que. Et quand on va sur le net, sur les sites un peu spécialisés comme Cielo Drive.
C'est comme Jacques l'Éventreur. Enfin, il faut quand même aller loin pour susciter pareille addiction.
Voilà. Voilà. Oui, on va dire que c'est un crime qui a suscité. Donc après, bah voilà. Après, j'avais une masse de documentation et puis le moment est venu. Il a fallu trouver. Je savais que c'était les meurtres que je voulais traiter. Donc voilà, j'étais sûr de mon coup. Quand j'ai vu qu'Emma Klein sortait son livre aux États-Unis il y a 2 ans, j'étais déjà en œuvre sur le livre. Donc je me suis dit, bon, bah, ça va, elle n'a pas fait les meurtres, ou en tout cas, elle en a fait une adaptation lointaine. Donc voilà, donc j'ai travaillé vraiment sur le sujet, c'est-à-dire les nuits d'attaque.
Alors les meurtres, vous vouliez les traiter frontalement, puisqu'en effet, on peut avoir plusieurs angles d'attaque, soit la manière Bugliosi, mais lui est un acteur de l'affaire et du procès, puisqu'il était procureur, donc c'est découvrir cette histoire comme l'ont découverte les enquêteurs, peu à peu, comme une espèce de thriller, jour après jour, heure après heure, ou au contraire transposer de manière romanesque, comme l'a fait McLean dans The Girls, ou alors faire comme vous l'avez fait, c'est-à-dire monter en selle, monter en croupe de cette histoire et être véritablement collé à l'affaire.
Enfin, je suis pas le seul, c'est-à-dire qu'il y a un journaliste, par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle Garbage People dans les années, je me rappelle plus de son nom, mais ça doit paraître en 71 ou un truc comme ça. Ça a été réédité, évidemment, par des petits éditeurs depuis, qui est un journaliste qui a été ami avec les Manson, un peu comme ce type. Je parlais d'un film tout à l'heure, il y a un film extraordinaire, c'est un documentaire qui s'appelle Manson, qui est sorti en 71, je crois que le type s'appelle Henriksson, je ne sais plus son nom, mais enfin, c'est un truc qui a été tourné dans le ranch pendant le procès, donc elles sont toutes là. Donc il y avait lui, il y avait des gens qui avaient vraiment été proches des filles à l'époque. Donc j'avais une documentation très précise qui a raconté toutes les nuits des meurtres. Il y avait beaucoup de choses. Donc j'avais un matériel, même ne serait-ce que sur ces 36 heures sur lesquelles je me suis... contenu qui était énorme. Donc voilà, après il a fallu
Alors réaction donc de vos lecteurs, Fausto Fasulo, vous qui avez donc lu California Girls.
Moi je suis totalement fasciné par l'histoire et puis surtout par l'aspect pop qu'elle finit par revêtir malgré elle en fait. C'est-à-dire que moi j'en suis venu à Manson puisque j'ai connu cette affaire-là bien plus tardivement, mais parce que justement ça a été complètement digéré par la culture pop et ça a été digéré dans d'autres livres, dans des documentaires, dans des films de fiction, dans des morceaux de musique, par des groupes. Il y a eu une esthétique en fait qui a découlé de ça. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié en fait dans le livre, c'est vraiment un point de détail, mais comme on dit, le diable est dans les détails, c'est le cas de le dire, c'est toutes les descriptions olfactives en fait.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'au-delà en fait de camper un décor de manière extrêmement précise, quand on s'attache à décrire les odeurs de manière si pointilleuse, ça provoque chez le lecteur un vrai sentiment de malaise. Et pour le coup, on avait vraiment l'impression d'avoir le nez fourré sous les aisselles de ces hippies, d'avoir le nez dans les entrailles, enfin vraiment de sentir la chair et la mort, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est très très efficace et qui est tout à fait effrayant.
Philippe Rouillet, oui, vous avez chanté aussi.
Je suis d'accord avec ce ressenti. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était devenu quelque chose de pop. Et moi, je trouve que la lecture du livre nous remet dans une réalité hyper douloureuse. C'est-à-dire que c'est pas du tout un livre qu'on lit comme ça, tranquillou, comme un petit polar. C'est un livre qui nous emmène avec les criminels. Donc, on est dans leur tête, on est dans leur corps. Et ça dure. Je veux dire, rien que le massacre tête, je crois que c'est 75 pages. De mémoire. Donc, on prend le temps de chaque seconde. Et moi, la question que je me pose vraiment quand je lis le livre, c'est à quel point, Simon Liberati, vous osez des privautés ? Est-ce que tout est documenté ? Mais en même temps, comme vous êtes dans la tête des personnes, elles peuvent avoir dit des choses et en penser une autre. Vous optez. Elle se dit ci, elle se dit ça, elle ressent ci, elle ressent ça.
Mais oui, moi je suis toujours gêné dans ces cas-là, notamment les livres, genre sur Marilyn Monroe, les choses comme ça, où les gens pensent à la place. J'en parlais avec Jean-Jacques Schull un jour qui me disait qu'il pouvait pas lire un livre où on disait « Ah, mais Marilyn pensait à ce moment-là ». Il me dit « Bon, comment elle sait ce qu'elle pensait à ce moment-là ?» Donc, pour répondre à votre question, j'avais quand même beaucoup de matériel. C'est-à-dire, par exemple, il y a un moment où je sais pas un détail. Elles sont dans la voiture en partant, c'est la première attaque, et il y en a une qui a une espèce de, il y a une métaphore sur la mer à propos des attaques de Watts, etc. Et il y a l'autre qui est perdu dans son rêve de LSD et qui a l'impression d'être à l'intérieur d'un corps et d'avancer avec la voiture dans l'intérieur d'un corps géant qui serait la ville de Los Angeles. Et je pense qu'elle a peut-être vu le film, Le Voyage extraordinaire, là, avec Raquel Welch,
qui était sorti
pas très longtemps avant qu'elle tombe dans la famille.
Une espèce de batiscaf qui suit le réseau vasculaire, voilà. Miniaturisé.
Mais ça, c'est par exemple cette idée-là, cette métaphore-là, c'est vraiment Patricia Krenwinkel qui l'a donnée à, je crois, justement, celui dont je parle, qui a écrit Garbage People, qui a vraiment s'est entretenu très longtemps avec toutes les filles. Et donc, j'ai beaucoup d'éléments très intimes. Alors, évidemment, sur les victimes, j'ai pas d'éléments. Donc là, c'est plus... Bon, je savais, par exemple, que le coiffeur dont le nom de voiture m'échappe,
Jesse Bring,
avait des problèmes. Je savais qu'il avait fait la guerre de qu'il avait été coiffeur dans l'armée, qu'il avait des problèmes d'argent, qu'il avait un gramme de cocaïne dans la boîte à gants de sa Porsche, que ce soir-là ils étaient allés bouffer au restaurant El Coyote avec Sharon, JB et que Wojtek les avait rejoints. Enfin, je les appelle comme si je les connaissais, connais pas, mais bon, c'est devenu tellement ma famille. Voilà, donc bon, après, il y a évidemment une part. J'avais commencé cet exercice-là dans Jane Mansfield, où je m'étais emmerdé pendant longtemps, tout le début du livre, à décrire le cadavre de Jane, les amis de Jane. J'envoyais Jane de loin. Je voulais pas rentrer dans Jane, parce que ça me faisait. J'avais toujours la remarque de Jean-Jacques dans l'oreille. Et puis tout à coup, il y a un moment où je me suis dit, je suis suffisamment possédé par le truc. Jane est là, et donc je peux peut-être être assez juste sur le coup. On peut se fier peut-être à l'inspiration. Et donc voilà. Et donc ce que je fais dire aux personnages pendant les scènes de meurtre ou leur pensée,
n'est pas très... En ce qui concerne les criminels, encore une fois, on a du matériel. Donc là, j'ai vraiment pas beaucoup eu à... Il y a quelques petits détails, évidemment, des enchaînements qui sont forcément un tout petit peu truqués, un tout petit peu... Il y a un petit chat. Alors, le petit chat, par exemple, qui arrive et qui monte sur les genoux de Sharon au moment où elle va se faire assassiner. Le petit chat, il existait. Elle avait plein de petits chats dans le jardin. Il y en avait un qu'elle nourrissait au biberon et qui était là pendant les meurtres. Donc lui, bon... Qu'il ait marché dans le sang, qu'il soit monté sur elle à ce moment-là, bon, je dois dire que ça, c'est peut-être une fantaisie.
Mais, du sens poétique.
Mais voilà, mais bon, ces choses-là, voilà, à part ça, évidemment, on s'arrange avec la réalité.
California Dreaming des Mamas and Papas. Donc, effectivement, ce milieu que fréquentait Manson avant de basculer, ce milieu qu'il a rejeté, on attribue sa bascule criminelle radicale à ce rejet du milieu musical.
Oui,
qu'il a un peu...
je vous interromps, mais il s'est rejeté un peu lui-même.
Oui, c'est-à-dire
qu'en fait, quand il doit enregistrer avec Melcher, on dit toujours Melcher lui a dit non.
Melcher, c'est le producteur des Beach Boys.
Il
l'a approché.
Voilà. Mais quand il doit enregistrer, mais il arrive, le problème, c'est qu'il arrive dans le studio avec cette 12 filles qui sont assises autour. Donc, si vous voulez, il était asocial et son attitude générale n'était pas forcément celle qui était nécessaire, même à l'époque où pourtant on était assez cool sur ce genre d'attitude. Parce qu'il avait du talent, Manson. Hein, c'est pas. Enfin, les premiers disques, il y a des choses bien. Hein. Bon, il y a un disque qui n'est pas très bon de la famille qu'ils ont vendu pendant le meurtre où ils chantent assez faux, mais qui est bien d'ailleurs, dans le genre un peu Mama et Papa,
ouais,
mais
ça, ouais.
avec les voix qui dérapent. Quand on aime bien les sons un peu pourris, il est pas mal l'album. Mmh. Hein, c'est celui où il y avait la tête de Manson sur la couverture de Life en couverture. Je crois que John Waters, là, il y a quelques collectionneurs qui ont ça.
Oui, parce qu'effectivement, en 1969, quand on en arrive à l'assassinat de Sharon Tate, commandité, non pas commis, par Charles Manson, le personnage a déjà derrière lui toute une longue, longue carrière, une longue saga de misère, de souffrance, de violence, où il est obligé de se battre pour survivre, et il arrive tout armé dans ce débat de la fin des années hippies.
Oui, c'est un violent, mais c'est un violent qui est intelligent, qui a été d'abord lui-même victime de violence, puisqu'il a d'abord été victime de violence quand il était enfant, puis c'est un homme chétif, très très petit, hein, il fait 1m54. Il a été exposé dès l'âge de 13 ans à la violence dans les prisons. Donc par ailleurs, il a aussi fait des rencontres. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans les pénitenciers. Donc il a rencontré un ancien membre du gang Baker, qui lui a appris le gang qui a inspiré Paderky Dépend Miss Blandish, qui lui a appris à jouer de la guitare, il a rencontré un autre qui l'a initié à la scientologie, à la philosophie.
Donc bricolé un fait de bagage, de vision des choses.
C'est un garçon qui a... Et puis il a des convictions. On rigole maintenant en disant qu'il est devenu écologiste, mais il a toujours été extrêmement écologiste. Il a toutes les idées nouvelles.
C'est ce que vous dites.
Il est un peu comme les autres gourous de l'époque.
Il n'est pas
plus bête, ni plus au contraire. Simplement, ce qu'il a en lui, cette chose qu'il a en lui, c'est la violence. Et la violence chez lui est quelque chose qui évidemment vient de son enfance, de sa mère alcoolique et délinquante, et prostituée, et aussi de ce qui est le phénomène même de la prison américaine, c'est-à-dire du fait qu'on mélange les longues peines avec les jeunes, et que ce garçon, moi j'ai connu le fils des Zemmour, d'Edgar Zemmour, qui s'est retrouvé à 17 ans en prison, en pénitencier pendant 5 ans aux États-Unis, il m'a bien parlé de la situation, et on se forge. Donc, quand il sort de là, il est évident qu'il est, c'est un dur.
Chargé à bloc.
Et donc, forcément, Pour être un bon escroc, parce que c'est un escroc au départ quand même un petit peu, pour être un bon escroc ou un bon gourou, il faut être violent. Parce que si vous voulez, je crois que les gens vous cèdent parce qu'aussi ils ont peur de vous. C'est pas seulement parce que vous avez un beau discours, c'est parce que vous leur mettez la pression. Et il met la pression à toute cette petite bande et il les dresse et il a autour de lui tout un élevage de sbires, de zombies, si on veut, qui sont devenus des doubles de lui-même. Et c'est comme ça qu'il arrive à ce stade en 2 ans à construire une famille qui est allée jusqu'à 100 membres. Hein. C'était pas un petit truc. Et qui avait un compte en banque, qui avait une gestion de la vie quotidienne qui était très organisée. Ils avaient des caisses, ils étaient bons. Alors après, c'était
mutuel.
Oui. Et d'ailleurs, les filles de la famille, quand elles sont furieuses, quand on dit regardez les photos, regardez dans quoi ils vivaient, c'était une véritable porcherie, ce que j'ai un petit peu accrédité dans le livre. Il y avait beaucoup de mouches parce qu'il y avait des chevaux, c'était un ranch. Mais la vaisselle, non, elles disent non, on en faisait la vaisselle, c'était très organisé. Elles se couchaient, on n'avait pas le droit de se coucher trop tard le soir, ils n'avaient pas le droit de boire d'alcool. C'était une petite armée. Ils voulaient construire l'armée du maréchal Rommel.
Voilà, c'est ça. Ils voulaient rencontrer l'Afrique à Corse. Voilà. Alors, en perspective du Helter Skelter, c'est-à-dire le grand chambardement social, une espèce de guerre raciale entre blancs et noirs aux États-Unis.
Ouais.
Une espèce de vision messianique millénariste de Manson.
Ça, c'est une reconstitution de Bugliosi.
De ce que dit le procureur.
Manson, lui, a toujours dit que c'était pas. Les membres de la famille qui continuent à parler de ça sur les différents sites où j'ai pu voir leurs échanges ne sont toujours pas trop. Le Helter Skelter a toujours été considéré comme une invention apocryphe de Bugliosi pour le procès, pour pouvoir condamner Manson, pour pouvoir l'envoyer à la chambre à gaz. Parce que sinon, comme il n'était pas sur les lieux du crime, c'était impossible de le condamner.
C'est difficile de condamner une espèce d'insufflation.
Et vous accréditez cette théorie dans votre livre.
Parce que si vous voulez, je ne voulais pas dans mon livre, sur un seul point, je sors un tout petit peu de la théorie, on va dire. Canonique, parce que j'estimais que j'écrivais un roman, que ce roman devait avoir un cadre, et que dans ce cadre, déjà, je prenais quelques libertés à raconter la mort de Sharon Tate. Si en plus, je commençais à développer des théories, je pouvais très vite tomber dans quelque chose qui pouvait décrédibiliser. Donc, je me suis dit, je vais garder la théorie canonique, même si elle n'est peut-être pas 100% vraie. Pour le roman, elle fonctionne. En revanche, je pense que véritablement, Manson était en liaison avec des éléments de la police. Ça, j'en suis presque certain. J'ai trouvé qu'il y avait un flic qui a été mêlé à une affaire de faux témoignages contre les Black Panthers la même année, et que c'est ce flic qui n'a pas transmis l'information qui aurait permis d'arrêter Manson. Donc il y a quand même quelque chose, je ne suis pas dans la théorie du complot, mais il y a quelque chose de louche. Et d'ailleurs, cette idée de créer des meurtres pour accuser d'autres, c'est pas du tout, on me parle du djihad et de conneries en ce moment un petit peu sur ce registre, c'est pas du tout une guerre sainte qui voudrait déclencher, c'est une manipulation qui se rapproche des manipulations d'ordre plutôt policière, ou des manipulations comme on a pu voir en Italie à certaines époques, c'est-à-dire qu'on crée un événement en voulant faire accuser quelqu'un d'autre.
C'est la fonction des meurtres.
Voilà, et la fonction des meurtres, c'est l'incendie du Reichstag. Enfin, c'est quelque chose qui est plutôt de cet ordre-là. Donc on peut penser qu'il a été influencé en prison par des gens qui voulaient quand même déstabiliser les mouvements, on va dire, anti-guerre du Vietnam, qui étaient en train de rejoindre le mouvement hippie et de rejoindre les Black Panthers. Enfin, il commençait à y avoir...
Ça crée une unanimité révolutionnaire.
Voilà, on a parlé de Contel Pro au FBI, vous savez, le truc créé par Hoover. Il existait au sein du LAPD une unité qui n'était pas une unité criminelle et dont ce flic, dont j'ai donné le nom dans le livre et qui m'échappe là, qui s'appelle Buckler, je crois, ou Buckler... était un pivot. Donc il y a quand même quelque chose de pas très... Donc voilà, donc pour sortir, pour répondre à votre question, je suis resté dans la théorie bugliosienne du Helter Skelter, mais j'ai quand même essayé de rendre compte de cet aspect de Manson qui me paraît plutôt plus vrai que le côté gourou et que qui est un petit peu plus folklorique, à mon sens.
Alors j'ai rencontré quelqu'un qui a rencontré Manson, mais l'homme qui a vu l'ours, qui s'appelait Boyd Rice, personnage sulfureux de l'underground américain, fondateur de la Noise Music. Il est allé voir Manson en prison. Il dit « Ah, mais Manson, il a une voix étrange. On a l'impression qu'il a deux voix qui parlent en même temps et que c'est un double personnage qui s'exprime à chaque fois. »
C'est intéressant.
« What's Jesus? There's all kinds of Jesus. There's a black Jesus down in Florida. He's having a good time. » There's a Mexican Jesus in Mexico. I mean, there's all kinds of Jewish Jesus. I mean, Jesus, you know. There's all kinds of Jesus coming back everywhere. And nothing can stop it. It's a consciousness that lives in your mind. You know.
Ah, voilà, voilà, Charles Manson, parmi les...
Il y a déjà un certain âge, hein, il me semble.
Voilà, c'est ça, parce qu'il est, il est toujours, je veux pas, bon pied, bon oeil, mais enfin, le personnage est, oui, est toujours véhément, oui, est toujours là. Et oui. La cellule de Manson, j'ai l'impression que c'est un peu la boîte de Pandore, qu'on n'ose pas l'ouvrir, parce que si on l'ouvre, eh bien, le mal se répandrait de nouveau sur l'Amérique. Il y a quand même une espèce de... Oui. Le personnage impressionne encore terriblement.
Ouais, oui, il a atteint un statut de particulier, qu'il est vraiment fait partie des vrais méchants du XXe siècle. Mmh. Et à ce point de vue-là, il a totalement réussi et il est totalement investi de son personnage. Et c'est sans doute à cause de lui, d'ailleurs, que les filles, je maintiens que c'est un, je l'ai dit déjà ailleurs, mais c'est Leslie Van Houten, c'est scandaleux qu'elle soit toujours en prison. Elle a poignardé un cadavre, ou presque. Elle a pas commis de meurtre réellement. Elle avait 19 ans au moment des faits. Elle s'est complètement réformée depuis. C'est pas du tout des gens qui devraient être encore en prison. En tout cas, en ce qui concerne Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten. Mais bon, voilà. Manson est là.
Tex ne savait plus trop où il en était. À force de plonger ses mains dans le sang, il avait l'impression d'en avoir partout, jusque dans le cerveau. La lumière extérieure lui semblait plus basse que jamais. Le type blond avait été particulièrement dur à abattre, même si Sadie lui avait préparé la tâche. Il restait encore deux à tuer. La brune était bien avancée, mais la blonde, enceinte jusqu'aux yeux, promettait une énorme corvée, surtout au couteau. Il tripota la gâchette du Longhorn. Le mécanisme s'était enrayé quand il avait défoncé le crâne du blond avec la crosse. Il avait frappé si fort qu'une partie du bois manquait et il contemplait son jouet cassé. Depuis toujours, il détestait maltraiter les outils. Pour se défouler, il aurait pu donner un coup de pied dans le tas de viande morte qui traînait dans l'herbe, mais il n'en avait même plus envie. Il était écœuré de violence, essoufflé tel un chien qui a tiré son cou. Et le job était loin d'être fini. Il vit Linda qui courait sur la pelouse comme un poulet décapité. « Arrêtez, par pitié !» Il entendit une grosse voix, un grognement de cochon lui répondre « C'est trop tard. »
France Culture. Mauvais genre, François Angelier.
Voilà un extrait donc des California Girls de notre invité de ce soir dans Mauvais genre, Simon Liberati. Alors ça c'est le cœur même de votre livre et vous avez commencé par cela, Simon Liberati. Vous avez organisé le reste du récit et de la narration autour de cette scène centrale que vous avez reconstituée de façon minutieuse, au point même de descendre à la fois dans le mental de celui qui tue, de celui qui est tué, et d'appréhender au plus près la réalité physiologique même de la mort.
Oui, c'était le but du livre. Ça, c'était le but que je m'étais donné. C'est que je trouvais souvent dans les livres, les descriptions de meurtres n'étaient pas extraordinaires. Il y a un, malheureusement, ce n'est pas un exemple à donner, à suivre, qui a donné un tout petit peu l'idée de ça. C'est un tueur en série qui s'appelle Schaeffer, qui a écrit un livre absolument effrayant qui s'appelle « Le journal du tueur », livre qui a paru, qui a été traduit en français chez un tout petit éditeur dont j'ai oublié le nom il y a une vingtaine d'années, et qui est un flic en Floride qui ramassait des autostoppeuses et voulait leur expliquer qu'il était dangereux de faire de l'autostop et finissait par les tuer dans les marais en les attachant et en faisant des photos d'elles. Il y a les photos et il y a surtout le livre qui était en fait son scénario. Vous savez, les pervers font souvent des scénarios avant de passer à l'acte.
Oui, c'est donc un rituel que l'on accomplit.
Voilà, et donc il y avait le scénario existe. Et Schaeffer, dans ses descriptions de mort, où il, d'ailleurs beaucoup, quand vous parliez d'odeur tout à l'heure, question d'odeur et d'odeur désagréable souvent, est très très précis. Et je pense qu'il m'a aidé, enfin si on peut dire que quelqu'un de cet ordre, il a été tué en prison depuis. C'est quelqu'un qui avait un certain talent littéraire pour le compte et qui arrivait très très bien à rendre le crime. Parce que Ted Bundy, par exemple, l'autre serial killer, a raconté ses meurtres violents aussi. Mais Schaeffer, c'est le plus précis. Donc ça, plus Dostoïevski, qui était quand même un très grand instinctif, enfin très, et qui avait dans le Crime et Châtiment la description de la vieille qui est tuée à coups de hache. J'avais quand même des éléments qui étaient pour moi des références. Et puis aussi, bien sûr, Elroy pour les scènes de meurtre, parce que je trouve que dans le Dahlia noir, il y a des descriptions de l'endroit où le Dahlia a été torturé, etc., qui sont très réussies, très très fortes, très 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 bonnes, très justes. Alors que par exemple, Bret Easton Ellis, qu'on me sort souvent, je trouve que ses descriptions de meurtre sont infantiles. Elles sont sont mauvaises. Donc voilà, après il l'a peut-être fait exprès, hein, mais en tout cas, le voilà, moi ce qui m'intéressait c'était ça.
De faire respirer, humer la mort et le sang.
Et dégoûter du crime aussi, on ouais, va pas, on va pas se, parce que quand même tuer c'est difficile et c'est dégueulasse, et surtout tuer avec des armes blanches. Et c'est très long. On n'arrive pas à tuer un être, un organisme vivant, même un animal, mais un être vivant, fort et jeune, c'est très 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 long. Donc je voulais montrer. Ça a duré 20 minutes, hein, le massacre. Donc c'était pas si long que ça. Il est plus long. Ça j'aime aussi ça dans le cinéma. C'est pour ça que j'aime bien certains films des années 60. C'est où le temps, ou Essence Spaghetti ou autre, où le temps est plus long dans la narration qu'il n'est dans la réalité, au lieu que ce soit le contraire, qu'on ramène. Donc là, les 75 pages, si on lit les 75 pages des meurtres, je pense qu'on excède de très loin ce qui s'est réellement...
La durée de mort, voilà, il tire le temps.
La durée réelle, les 20 minutes, c'est quand même long.
Fausto Fazzulo, si on devait citer un ou deux films qui seraient justement les plus caractéristiques de la mythologie mansonienne dans le cinéma américain, certes, mais européen aussi.
Ce qui est intéressant, c'est que très vite, en fait, bon, on connaît la capacité des Américains à revenir extrêmement rapidement sur leur histoire, quand bien même elle est très sordide. Mais ce qui est assez fou, c'est de voir à quelle vitesse le cinéma d'exploitation américain a emboîté le pas, en fait, à l'affaire Manson. Je crois que dès 1970, il y avait un film qui s'appelle I Drink Your Blood. Alors tous les films ont à peu près le même pitch, hein, puisqu'il s'agit toujours d'un gourou, effectivement, et puis d'une poignée de fanatiques qui le suit pour commettre des meurtres. En revanche, j'ai pas vu de film, en tout cas, qui essayait de s'attacher, j'aurais presque à dire, à la réalité des choses, mais tout était traité très souvent sous un angle, effectivement, très cinéma d'exploitation. Il y a eu un film qui s'appelle The Cult aussi, j'ai parlé de I Drink Your Blood, il y avait aussi un film qui s'appelait, je crois, Sweet Savior. Donc il y a eu beaucoup de films comme ça, américains, qui ont emboîté le pas à l'affaire et qui ont surfé sur cette espèce d'odeur sulfureuse.
Mais par exemple, si on essaie d'appliquer à l'affaire Manson, ce qu'avait fait Jean-Baptiste Torré avec l'assassinat de Kennedy au cinéma américain, tous ces films qui nous présentent des familles de rednecks qui vivent à l'écart dans des ranchs, dont ils ont construit toute une espèce de dévotion sauvage avec des eaux perdues dans les... Il y a quand même du mansonisme derrière tout ça.
On peut voir du mansonisme dans un film comme La Dernière Maison sur la Gauche de Wes Craven. Ouais. On peut voir des Roland Manson chez un homme comme Rob Zombie. Tout son cinéma, en fait, est limite basé sur l'affaire de Manson.
Rob Zombie est entièrement mansonien.
Effectivement, sa façon de décrire constamment des familles fait ouvertement référence à la famille. Lui-même, il a repris quand il était musicien avec son groupe White Zombie, le morceau Helter Skelter. Il a travaillé son look autour, effectivement, de la figure de Charles Manson. Et effectivement, un film comme Devil's Rejects fait ouvertement référence à la famille de Charles Manson.
Philippe Rouillet.
Oui, parce qu'il faut quand même pas... Quand vous parlez de redneck, François, il y a toute une tradition de cinéma de redneck qui est plus campagnard. Là, il y a quand même le côté hippie et le côté drogue. Et le côté
communauté plutôt que le côté redneck.
Ouais. Voilà, c'est ça, qui est très présent. C'est pour ça que le côté Dernière Maison sur la Gauche, où il y a un côté notamment sexuel, des meurtres et tout d'un coup des flashs chez les criminels qui s'aperçoivent ce qu'ils sont en train de faire au moment où ils le font, qui est très présent dans le livre de Simon Liberati, où il y a de temps en temps des accès de rage et puis de temps en temps comme des flashs de qu'est-ce qu'on fait là. Et c'est un peu ce que vous avez lu tout à l'heure, hein, François. Il y a encore beaucoup de travail à faire, on n'a plus envie de ça, on aimerait être
surtout
ailleurs.
Surtout que Charles Tex Watson, vous le dites, a deux personnalités en une au même moment, c'est-à-dire qu'il y a le bon gars et en même temps l'assassin.
Parce que Watson, pour vous dire, c'est même la phrase que vous citez au début, « Je suis le diable et je suis venu pour faire le travail du diable ». Cette phrase dans le livre, je ne sais pas si vous avez remarqué, je la traite en blague. C'est-à-dire que je trouvais qu'au premier degré, Watson est un
très personnage pompeuse,
très ambigu, parce que il y a deux Watson. Il y a un Watson, le criminel. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est un véritable psychopathe. Et puis, il y a un Watson extrêmement sympathique, qui est le Watson qui existe depuis, comme s'il y avait eu, vous savez, ce qu'on appelle des transgressions libératoires, c'est-à-dire qu'il avait commis ses meurtres et qu'à partir de ce moment-là, il était redevenu le bon garçon qu'il était quand il était jeune, élevé au Texas, dans des conditions... confortable, c'était pas de la sportif, très bon footballeur, fils d'un type qui avait une épicerie station-service, vraiment un bon gars qui a été d'ailleurs protégé par les Texans au début quand les flics de Los Angeles ont voulu l'extrader on n'arrivait pas à le faire bouger du Texas parce que les gars du Texas, son cousin était shérif.
Voilà,
donc c'était vraiment un bon gars du Texas et je pense qu'il y a un deuxième Watson et que c'est quand même lui qui a commis tous les crimes, c'est-à-dire qu'en fait les filles physiquement étaient pas capables de tuer ne serait-ce que Wojtek Frykowski qui faisait quand même un bon poids, une belle taille, ou l'autre qui était champion de karaté, enfin, ou en tout cas qui avait pris des leçons de karaté, qui c'est quand même pas non plus un... Donc pour tuer ça, il fallait quand même y aller, et c'est lui qui a tué. Donc lui, à mon avis, était un... Alors c'est là où j'ai créé, en effet, ce truc un peu à la où il a son personnage sur l'épaule là, ouais, comme les bandes dessinées de le nom m'échappe, enfin, et voilà, mais c'est une petite privauté littéraire
à la rencontre donc de l'affaire Sharon Tate, l'univers mental idéologique et de la violence physique puissante de l'univers de Manson. Simon Liberati, dont notre invité de ce soir, California Girls, c'est chez Grasset. À chaque époque sous Manson, ai-je envie de dire. Alors effectivement, il y a celui des années 1969, cette deuxième partie du XXe siècle. On pourrait ériger Gilles de Rais, c'est un peu artificiel et ça vaut ce que ça vaut, comme une sorte de figure mansonienne pour le bas Moyen-Âge. Et puis il y a quand même une sorte de Manson du XIXe siècle. Et ce Manson du XIXe siècle, eh bien, il apparaît dans ce livre de Philippe Vasset qui sort chez Fayard et qui s'appelle La Légende. De quoi s'agit-il ? Alors d'abord, vous racontez l'histoire de Philippe Vasset. Philippe Vasset, on le connaît. Céline Duchesnay est également une grande lectrice de Philippe Vasset. On l'avait reçu à Mauvais Genre lors d'une nuit blanche. C'est quelqu'un qui est fasciné par ce qu'on appelle la psychogéographie, les dérades urbaines. C'est un homme fasciné par la ville. Et là, eh bien, il nous raconte une autre histoire, puisque pendant une année, en 2014-2015, Philippe Vasset a été pensionnaire de la Villa Médicis, donc à Rome. Et à Rome, il a tout fait pour entrer en communication, non pas avec un esprit, mais avec un document qui était dissimulé depuis près d'un siècle dans les travées silencieuses de la bibliothèque vaticane, qui était le cahier rose de l'abbé Boulan. Alors, qui est l'abbé Boulan ? Eh bien, l'abbé Boulan, c'est justement peut-être le Manson du Second Empire. À l'origine, c'est un prêtre comme il y en a eu tant, théologien, très tourné vers la mystique, directeur d'une revue de la géographie, et qui rencontre, au début du Second Empire, une sœur, enfin une éternelle novice, une âme un peu bleue, comme ça, un peu errante, un peu comme les jeunes filles que Manson faisait monter dans son car à destination du ranch, qui s'appelle la sœur Adèle Chevalier. Et entre eux se passe quelque chose qui est de l'ordre de la passion amoureuse, qui prend des formes de passion mystique. Et ils créent ensemble une œuvre qui s'appelle l'œuvre de la réparation. Et cette œuvre de la réparation, qui est faite pour, dans la prière, expier les fautes du prochain, va dégénérer dans une espèce de démence théologique et mystique totale, puisqu'on va pratiquer là des rituels extraordinaires avec des emplâtres fécaux, des bénédictions à l'urine, la communion vaginale. Il y aura même un infanticide, puisque le couple aura un enfant. Donc, ce qui était à l'origine une pieuse entreprise dégénère dans une espèce de comédie mystico-macabre totalement délirante, qui vaudra à l'abbé Boulan d'être emprisonné pour escroquerie, parce qu'à la limite, justement, de Manson, il était aussi un peu escroc, promettant à tel et à tel justement le pardon de ses péchés avant la mort. Et donc cet homme justement reprend un peu la figure mansonienne, c'est-à-dire qu'il a un charisme extrêmement puissant, une puissance à la fois érotique, psychologique, dévastatrice. Il s'entoure de femmes qui sont des femmes, je dirais, crédules, naïves, à quelles il arrive à embarquer dans cette espèce de carrousel des maléfices théologiques. Et il termine, alors lui, non pas en prison pour des dizaines d'années, mais comme il mourra d'une crise cardiaque en 1879 à Lyon, il finira comme pontife d'une secte lyonnaise. Donc c'est très intéressant d'arriver, je dirais, non pas à superposer, mais à faire résonner ensemble la figure de Manson avec la famille, l'orange, toute cette espèce de vision d'une sorte de cataclysme social lié au Helter Skelter, à des affrontements, avec la figure de l'abbé Boulan. L'abbé Boulan qui est célèbre, bien sûr, parce que Huysmans, qui a été son ami et son disciple, entre guillemets, l'a récupéré dans son roman Là-bas. Donc entre Manson et l'abbé Boulan, il y a peut-être des ponts et des passerelles à faire. Philippe Rouillet, terminer. Comment avez-vous trouvé, vous, la...
Le livre de Philippe Vasset est excellent. Ouais. Effectivement, ouais. On l'avait reçu pour La Conjuration, qui était déjà un traité de géographie totalement passionnant. Parce que ce qui est très bien dans cette histoire, c'est que c'est le choix contraire de Simon Liberati. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la tête de l'abbé Boulan à partir de ses cahiers, mais on est un siècle et demi après, avec un prêtre qui, au Vatican, s'occupe des affaires saintes, c'est-à-dire
Congrégation pour la cause des saints.
Des dossiers en canonisation, etc. Et il est évidemment fasciné par cet abbé Boulan, et à la fois il enquête sur lui, et il y a presque un désir d'imitation. Donc comme si les adorateurs de Manson passaient à leur tour à l'acte. Et le livre est ça. Et le livre est aussi un mystère sur qu'est-ce qu'il a réellement fait, parce qu'on comprend qu'il est déchu, c'est dit dans les premières pages, ce prêtre d'aujourd'hui, et quelle est son histoire, comment a-t-il reproduit avec une autre jeune femme l'histoire de l'abbé Boulan. C'est totalement captivant, fascinant, et en même temps, c'est aussi très très documenté, parce qu'il y a l'abbé Boulan, mais il y a tous les autres Bosco, etc., des saints incroyables, ou des gens qui ont été apprentis saints, ou qui ont été aspirants, prétendants, ou qu'on a donné comme prétendants. Et du coup, toute cette histoire, la légende dorée, en même temps, du catholicisme, et les choses les plus
sombres, la légende noire
des allées du Vatican, sont dans ce livre extrêmement documenté, qui est vertigineux aussi.
Fausto Fazulo, réaction à la geste de l'abbé Boulan et au héros du roman de Philippe Vasset.
Le héros est vraiment fascinant. Au début, j'ai eu un petit peu de mal, et puis c'est vraiment un roman qui fonctionne par absorption, puisque effectivement, on avance un petit peu par touche impressionniste, et puis il y a ces portraits qui viennent fragmenter en fait le récit de ce prêtre. Mais il y a juste une phrase que j'aimerais lire et qui m'a fait beaucoup rire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour aussi dans le livre. C'est quand il parle de sa recherche de saints et qui dit: j'usinais à longueur de journée, non pas pour ma reconquête, j'appelais des saints exubérants, spectaculaires, des saints disco, pulp et kitsch. Et effectivement, c'est très drôle de le voir comme ça partir en quête de saints qui seraient à même de redynamiter et redynamiser les croyants.
Absolument, il est favorable à une sainteté camp et queer, comme nous, à mauvais genre. Troisième sujet ce soir dans Mauvais Genre, eh bien le démarrage imminent de la 22e édition de l'Étrange Festival au Forum des Halles, et puis l'accueil que l'on va faire, grandiose bien sûr, à Frank Hennenlotter, dont les œuvres ressortent en Blu-ray chez Carlotta. J'ai rencontré Frédéric Tan, animateur, cofondateur de l'Étrange Festival, pour qu'il nous en dresse cette année non pas le portrait du programme, ça on va vous le tenir au courant au fur et à mesure, mais la philosophie générale de l'entreprise.
L'étonnement de trouver par exemple quelqu'un comme Jazz Coleman, qui est une personnalité assez importante de l'histoire de la musique rock et du punk rock par exemple, aux côtés de personnalités comme Sophie Marceau, Zulawski, etc. C'est presque des antinomies pour certains qui ne pensent pas forcément trouver logique d'avoir à cette même table ce type de personnalité. Pour nous, ça a toujours été une cohérence. C'est, comme je le disais encore, l'ADN même de la manifestation depuis sa création, de toucher à tous les genres, y compris les mauvais genres s'il le faut. Mais en tout cas, tout est possible et tout se permet à l'Étrange Festival. Ce qui ne serait pas forcément le cas pour certaines manifestations. J'en sais rien, je ne suis pas dans leur cuisine. Nous, on s'est toujours donné la liberté de ton de traiter les sujets comme on les entendait, comme on les voulait, et qu'on voulait surtout les présenter aux spectateurs. Apparemment, 22 ans plus tard, on arrive à peu près à le faire.
Donc éviter le marginalisme bigot et puis le pseudo-transgressif frileux.
Absolument, c'est exactement ça. Le marginalisme bigot tombe très très bien, parce que c'est une chose qu'on a pu constater dans des commentaires ou autres, parce qu'il faut en tenir compte quand même. Certains vont dire de façon assez flagorneuse comme ça, non, je m'intéresse pas à ce qui est dit autour, etc. Si, il faut en tenir compte. Nous sommes là quand même sans démagogie aucune pour les autres. Si on voulait s'en réduire qu'à quelques camarades autour d'une bonne bouteille, d'une bonne tablée, et de voir des films exclusifs, voir des rushs inédits comme les uns et les autres pourront les avoir dorénavant de temps en temps, historiquement, ça serait trop simple. Il y a vraiment toujours cette notion de passeur et de passage qui était nécessaire et voulu et volontaire à la création du festival. Les générations changent, nous aussi d'ailleurs, puisque dans l'équipe arrivent, et fort heureusement, un nouveau sang et une, je dirais pas une relève pour l'instant, mais en tout cas un complément, et quel complément en l'occurrence, qui va toujours dans ce sens-là. Il y a toujours des choses à faire découvrir, des choses à remontrer, et en effet, vouloir se les garder dans un petit coin de complétiste comme ça, professionnalisé ou autre, n'aurait aucun sens. Donnons au maximum aux gens la possibilité de découvrir l'étendue énorme de la culture et de l'art. Point.
Frédéric Tain, cofondateur et animateur de l'Étrange Festival, dont la 22e édition démarre dans quelques jours au Forum des Halles à Paris, et on le recevra en vedette, Franck Hennen l'auteur. Présentation du monsieur.
Franck Hennen l'auteur, c'est quelqu'un qui surgit dans le paysage gore des années 80, au tout début des années 80. Vous savez, il y a eu Les Maîtres, Romero à la fin des années 70, Fait Zombie, etc. Et au début des années 80, il va y avoir des gens comme Sam Raimi, comme Stuart Gordon, qui se disent, c'est un terrain d'expérimentation formidable. Puisque maintenant, on a accepter le gore, le cinéma d'horreur, à partir de là, soyons fous, faisons... Mais alors, on n'a pas de rond. Donc, quand il fait Basket Case, Frère Basket de sang, Case, en 1982, il a 33 000 dollars, il va le tourner en un an, parce que c'est pas parce que le film fait une heure et demie, mais il tourne le week-end, et les week-ends, quand il a des sous. Et tout est bricolé, et ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de deux Siamois qu'on a séparés, sauf que le deuxième Siamois, du coup, il n'y a qu'une tête monstrueuse avec des mains. Et c'est tout ce qu'il y a. Et alors, évidemment, on a voulu les tuer, mais ils continuent à communiquer par télépathie. Donc, celui qui a l'apparence humaine, Duan, promène Bélial dans un panier d'osier. Et la première chose qu'ils font quand ils débarquent à New York de leur province, c'est pour assassiner, les trois médecins qui les ont séparés. Et donc, c'est ce travail-là. Et évidemment, ce qui est très beau dans le film, c'est que il y a la 42e rue où Franck Hennen l'auteur a baigné dans cette culture du cinéma d'horreur, du film de karaté, de l'érotisme, et qu'il recrée avec un délire. C'est-à-dire que l'hôtel où se situe l'action n'existe pas, mais je vais vous donner juste cet exemple. Le hall de l'hôtel, c'était dans un immeuble où ils ont habillé le monte-charge en réception d'hôtel. Tout est comme ça, et tout est bricolé, et ça donne un film poignant où même une marionnette ridicule, génère une émotion.
Christophe Azulo.
Oui, bon, Franck Hennen l'auteur, c'est un vrai, c'est un pur, c'est un dur. C'est quelqu'un en plus qui ne s'est jamais prostitué à Hollywood. C'est pour ça qu'il est resté à peu près 15 ans sans tourner après Basket Case 3. Et ce qui est très intéressant, si on regarde ses films, alors après lui, il aime pas trop qu'on les analyse. Il a ce recul du créateur qui en a un petit peu marre, en fait, qu'on surinterprète ses longs métrages. Si on y regarde de plus près, on se rend compte que ce sont des grands films sur la solitude masculine en milieu urbain. À chaque fois, ça parle de la même chose. C'est des gens qui sont incapables de trouver leur place. Et dans un film comme Basket Case, les frics sont autant les deux frères que tous les habitants de New York et tous les habitants de l'hôtel.
À redécouvrir donc la trilogie Basket Case chez Carlotta, et puis aller évidemment quotidiennement à l'Étrange Festival. Mais le moment est venu maintenant de retrouver pour la première fois Monsieur Beer.
En 1962, José Benazeraf, jusqu'alors producteur, écrit et réalise en 12 jours son premier film « L'éternité pour nous », adaptation d'un roman de Georges-Jean Arnaud publié au Fleuve Noir. Il en respecte la grisaille, l'égarement des personnages. En poussant l'érotisme latent propre aux intrigues provinciales du romancier, le jeune cinéaste parvient à un drame angoissant et charnel. Il construit un érotisme existentiel dans un décor qui porte déjà les stigmates de la solitude et de l'abandon. Dans une grande pension blockhouse, en morte saison continuelle, près d'un bord de mer désert, rythmé par le ressac vin des vagues, des personnages épaves s'engluent. Un compositeur raté est tiraillé par la grâce vulgaire de sa chanteuse et le désir refoulé de la propriétaire du lieu. La première n'a de talent que quand elle est nue, la seconde s'étiole au chevet d'un mari incurable. Ce corps malade, dans l'obscurité permanente de sa chambre, catalyse la pulsion de vie. Le large format scope en noir et blanc accentue la déréliction des êtres, silhouette perdue dans l'étendue des décors naturels. Les dialogues se figent dans une écriture poétique qui frôle l'artifice. Le cinéaste filme avec gravité la sensualité animale de Sylvia Sorrente, 20 ans, modèle sexy de Paris Hollywood à l'opulente poitrine, et les débordements soudains de Monique Juste. Sa tragédie est-elle consubstantielle à la censure, très forte à l'époque? Les étreintes restent inassouvies. Sorti dans le circuit spécialisé des salles sexy de Pigalle, L'éternité pour nous est rebaptisé par les exploitants d'un plus commercial, Le cri de la chair, qui résume brutalement l'érotisme noir que Benazeraf développera pendant près de 30 ans. Dès ce premier film, que LCJ vient d'éditer en DVD, il trouve son style, fait de citations littéraires, ici Monterland, de figures hiératiques, de striptease digressifs, de violence. La nuit prédomine et piège les protagonistes jusqu'aux premières lueurs de l'aube, victimes fragiles d'un romantisme désenchanté.
Merci Christophe Beer, merci Simon Liberati d'avoir été ce soir l'invité, le premier de la 20e saison de Mauvais Genre. Évidemment, nous recommandons très chaudement dans cette émission votre dernier livre, California Girls, donc sur l'affaire Manson, un roman paru aux éditions Grasset, de même que nous recommandons la légende de Philippe Vasset chez Fayard, la trilogie Basket Case, Frères de Sang, aux éditions Carlotta, c'est en Blu-ray, puis Nancy Huston, La fille poilue, vue par Guy Auberson, aux éditions du chemin de fer. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Prolleret, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Anaïs Isbert, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Christophe Beer et François Angelier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine à l'occasion du Festival America et je recevrai l'auteur de Polar, Émilie Saint-John Mandel.